À toi, Romain, qu'ils te souviennent d'imposer au peuple ton empire, d'épargner les vaincus et de dompter les superbes. Virgile.
D'histoire. Du mur d'Adrien au sud de l'Écosse jusqu'au désert de Libye et de l'Atlantique à la mer Noire, les légions romaines ont conquis et défendu pendant plus de 10 siècles un des plus grands empires de l'histoire. Mais leur puissance était telle qu'elles ont aussi joué un rôle politique considérable. Quand Rome était une république, et jusqu'à ce que César eût franchi le Rubicon, il était d'ailleurs interdit aux soldats et à leurs généraux de pénétrer en armes à l'intérieur de l'enceinte sacrée de leur capitale. Mais quand Rome devint un empire, c'est bien souvent les légions qui désignaient les empereurs. Et l'on comprend pourquoi l'armée des Romains faisait aussi peur à leur pouvoir politique qu'à tous les peuples qu'elle a su soumettre, à l'exception, bien sûr, de quelques irréductibles Gaulois qui, grâce à leur potion magique, ont su résister à une des armées les plus redoutables de l'histoire.
Tout va bien, Sentinelle? Rien ne bouge?
Tout va bien, Centurion. Rien ne bouge.
Ils sont tranquilles. Tant mieux.
Tant mieux! Profitons de la surprise. Il faut tomber sur eux et les écraser. Je vais rassembler mes hommes.
Tu es nouveau ici?
Je suis arrivé avec la dernière cohorte.
Alors n'attaque jamais les irréductibles Gaulois d'Ecurio Superbus. De toutes les provinces soumises par César, la Gaule est la plus indisciplinée. De tous les villages de la Gaule, celui-ci est le plus dangereux.
Les Gaulois! Les Gaulois! Les Gaulois!
Encore! Sur trois lignes! Déjeuner! Porte épilum!
Porte épi!
Tu m'en laisseras bien, petit peu!
Veni vidi non vici!
Catherine Salle, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes maître de conférences à Paris 10 et auteur d'un livre sur la vie quotidienne au temps de César. Alors j'espère que l'historienne sérieuse que vous êtes ne nous en voudra pas trop de commencer cette émission par un extrait d'Astérix pour parler de l'armée romaine.
Pas du tout, Astérix c'est un très bon document et en plus on apprend beaucoup de choses tout en s'amusant.
Oui, c'est vrai que en plus c'est très documenté.
Très documenté.
Et l'armée romaine, bah, beaucoup de jeunes l'ont découverte justement en lisant Astérix. Est-ce que vous connaissez cette formule de De Gaulle qui disait « l'épée est l'axe du monde ». Alors dans l'Antiquité, le monde c'était l'Empire romain dont on peut dire, je crois, que sans les légions, il n'aurait pas existé. C'est sur les légions, sur son armée, et grâce à elles, au fond, que l'Empire a pu se développer.
Oui, parce que pendant près de 3 siècles, les légions romaines sont parties à la conquête de tout le bassin méditerranéen. Et à partir du 1er siècle de notre ère, ces légions vont être concentrées tout autour des frontières de l'Empire pour protéger cet empire romain et éventuellement faire quelques incursions dans des territoires non encore conquis.
Et au début, il s'agissait de le défendre, y compris contre les Gaulois qui sont arrivés jusqu'à Rome.
Ah oui, oui, en 390 avant Jésus-Christ, les Gaulois ont envahi une grande partie du monde européen, en particulier, ils sont arrivés à Rome. Et on connaît l'histoire des oies du Capitole qui ont permis aux Romains d'éviter la prise du Capitole.
Alors, on oublie souvent que Rome, l'empire romain, ça a duré des siècles, une dizaine de siècles, mais qu'il est divisé en deux parties, il y avait la République à peu près jusqu'au début de notre ère, et puis ensuite l'Empire. Est-ce que l'armée a changé? Parce que même à l'époque de la République, je crois à peu près un siècle avant Jésus-Christ, il y a quelqu'un qui a réformé cette armée, c'était très important.
Oui, l'armée a complètement changé au deuxième siècle avant Jésus-Christ. L'armée romaine a ceci de particulier dans le monde antique, c'est que c'est une armée de citoyens, alors que beaucoup d'autres peuples ont des armées de mercenaires, comme Carthage, par exemple. Or, cette armée de citoyens, au IIe siècle avant notre ère, devenait incapable de résister, finalement, à cet entraînement tout à fait considérable qu'on leur demandait. Et c'est pour cela que l'homme politique Marius, homme politique et général, a fait voter ce que l'on appelle la prolétarisation de l'armée. C'est-à-dire que, jusqu'à Marius, ne pouvaient combattre que ceux qui avaient un certain chiffre de fortune, c'est-à-dire quelque chose à défendre. À partir de Marius, tout le monde, à partir du moment où on est citoyen romain, peut s'engager dans la Légion. Et petit à petit, l'armée va devenir, effectivement, va concentrer en fait tous les habitants, les plus pauvres citoyens romains de Rome, et cette armée devient une armée de métier. Et cette armée de métier qui va faire les guerres du 1er siècle avant notre ère, et qui va en faire ces légions que l'on trouve tout autour du bassin méditerranéen.
Il y a beaucoup de gens qui venaient s'engager, je crois, parce qu'ils étaient relativement bien payés. Vous donnez les chiffres, 750 sesterces, jusqu'à 3000 sesterces. Alors, comme je ne connais pas l'équivalent en euros des sesterces, est-ce que c'était beaucoup?
Non plus, vraiment, oui, c'était pas mal. Cette solde va d'ailleurs augmenter pendant tout l'Empire. Et c'est vrai que dans l'armée étaient recrutés des gens qui n'avaient pas de moyens d'existence véritable à côté de cela. Donc l'armée était effectivement pour eux à la fois la promesse d'avoir un salaire, d'être entretenu pendant les 15 ou 20 ans que durait leur service. Et en plus... 20 ans pour les légionnaires, et en plus de participer au butin, et ça c'était aussi très attractif.
Alors ça faisait tout ça une armée très importante, 160 000 hommes, dites-vous, à l'époque de Marius, c'est-à-dire au 1er siècle, au début du 2e siècle avant Jésus-Christ, 450 000 au 3e siècle de notre ère, l'ensemble étant divisé en plusieurs légions de 5 000 hommes, commandées par un général, on disait un légat, qui était désigné par l'empereur lui-même.
Je déclare que voici mon légat avec les pleins pouvoirs d'agir et de parler en mon nom propre. Qui désobéirait à ses ordres commettrait une trahison. Moi, Vespasien, ai signé ceci.
Obéissez-lui.
Veille les dieux, préservez notre empereur!
Suivant! Suivant! Pour la tortue! Lève ! En ligne et à genoux ! À genoux !
Vos centurions ont l'habitude de manœuvrer sur un terrain dégagé. Alors à partir d'aujourd'hui jusqu'au jour de l'assaut, enfoncez leur salon à la tête. Les trompettes, les porteurs d'étendards, tous avanceront ou reculeront sur ordre de Gallus et de ses officiers.
Centurie, préparez-vous !
Demi-tour, droite !
Centurie ! Marche!
Vous écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui l'armée romaine.
Et c'était l'extrait d'un téléfilm peu connu, mais très documenté et très fidèle à la réalité, Massada de Boris Segal avec Peter O'Toole dans le rôle d'un légat. On a entendu aussi le mot de ceinturie. Alors, ceinturie, légion, cohorte, manipule. Catherine Sall, on a tous entendu parler de ça, mais on ne sait pas très bien à quoi ça correspond.
Eh bien, l'unité de base, c'est la légion, en fait. La légion, c'est entre 5000 et 6000 hommes. Et la légion n'est composée que de citoyens romains. Parce qu'à côté de ça, il y a tous les corps auxiliaires très importants, mais composés d'alliés, non pas de citoyens romains. La légion est elle-même divisée en cohorte. La cohorte est elle-même divisée en manipule. Et le manipule est lui-même divisé en centurie, qui est donc la plus petite unité de l'armée romaine.
100 hommes, à peu près. C'est une compagnie aujourd'hui.
Oui, en fait, c'est jamais véritablement 100 hommes, mais on... C'est plus facile de dire, effectivement, centurie, cent hommes.
Alors, vous rappelez aussi qu'en dessous du légat qui commandait une légion, il y avait un tribun qui était un peu son adjoint. Il y avait un préfet du camp aussi.
Il y avait le préfet du camp, il y avait des différents lieutenants, parce que le mot légat est assez vague en latin. Ça désigne aussi bien le commandant en chef, mais ça peut désigner aussi des officiers supérieurs commandant des détachements plus particuliers.
Alors, il y avait aussi, bien sûr, à la base, les soldats romains qui étaient, vous l'avez dit, des citoyens. Qui étaient engagés. C'est une armée de métiers, c'est pas une armée de citoyens.
Oui, c'est une armée de métiers. On les engage entre 18 et 25 ans. Ils doivent se plier à une sorte de conseil de discipline, c'est-à-dire qu'on vérifie leur qualité physique. Il faut évidemment ne pas avoir d'infirmité.
Il faut être grand.
Il faut être grand, 1m65 pour les Romains, ouais. C'est déjà assez grand. Il faut avoir une bonne santé. Il faut savoir lire et écrire et compter. Et il faut parler le latin. Parce qu'il n'était peut-être pas le cas de tout. Ça peut paraître bizarre, mais tous les citoyens romains ne maîtrisaient pas véritablement le latin.
Ah oui. Et il faut être d'une bonne moralité aussi. Dites-nous.
Et bonne moralité, c'est-à-dire prêt à tout pour défendre l'honneur de sa patrie.
Alors c'était, vous parlez par exemple beaucoup de leur vie quotidienne, notamment de l'entraînement qui était très rigoureux.
Oui. On leur faisait mimer aux jeunes recrues, on leur faisait mimer toutes les situations dans lesquelles ils pourraient se trouver par la suite, que ce soit une bataille en pleine campagne, que ce soit un siège, que ce soit une guérilla. On leur faisait posséder tous ces éléments de combat.
Et puis il y avait une hiérarchie entre les soldats, parce que les débutants, hein, ceux qui arrivaient, auxquels qui étaient soumis à l'entraînement, ça s'appelait les munifex, c'est-à-dire qu'ils étaient soumis à des corvées.
Ah oui, parce que bon, c'est un peu dans toutes les armées, je pense, la même chose, c'est-à-dire que les corvées vont aux soldats de base, hein, aux soldats de base qui étaient effectivement les jeunes recrues.
Et puis alors il y a ceux qui en étaient dispensés, c'était les immunex, c'est ça?
Oui, les immunex. Alors soit parce qu'ils s'entendaient bien avec leur officier, centurion ou plus élevé, soit parce qu'ils avaient des fonctions particulières dans l'armée, comme les musiciens par exemple de l'armée.
Et puis ils étaient soumis aussi à la discipline très sévère de l'armée romaine.
La totalité des forces va se disposer par corps dans le but d'entendre quelle sera la punition que vont encourir les quatre accusés pour complot visant à commettre trahison.
Le châtiment prévu pour votre action consiste à être écorché vif, puis décapité par vos propres glaives. Mais une pareille punition garde un aspect militaire et j'y vois une trop belle mort pour vous. Toutefois, voici mon jugement. Puisque vous teniez tant à nous abandonner que votre vœu soit exaucé, on va vous conduire jusqu'à la grande porte et on vous lâchera dans le désert. Mais sans vivre, sans rien à boire, et vous irez nu-pieds. Que cela soit fait tout de suite et que tout le monde en soit témoin.
Alors on vient de l'entendre, Catherine Salle, dans l'armée romaine, on ne badinait pas avec la discipline qui était un des aspects de la vie quotidienne des soldats romains. La revue de texte, Stéphanie Duncan.
Oui, dans la tradition romaine, vous l'avez dit, le citoyen est en même temps un soldat au service de la patrie et de la conquête. À toi, Romain, qu'il te souvienne d'imposer au peuple ton empire, écrit Virgile dans l'Énéide. Alors, à l'origine, seuls les citoyens ont l'honneur de faire la guerre. Le jeune homme reçoit sur le champ de Mars une formation militaire très complète, maniement des armes, bien sûr, mais aussi javelot, équitation, combat, natation, traverser le Tibre à la nage, par exemple. Eh bien, une formation si sérieuse, d'ailleurs, que les jeunes filles sont priées de ne pas venir la perturber. Le poète Horace reproche par exemple à la jolie Lydia d'éloigner son amant Sybaris de son devoir militaire. Par les dieux, Lydia, pourquoi veux-tu perdre Sybaris par ton amour? Pourquoi tient-il en haine le champ de Mars où il devrait supporter poussière et soleil? Pourquoi ne galope-t-il pas sur un cheval de guerre parmi ceux de son âge? Un soldat est donc en principe un citoyen, mais il arrive que dans des situations exceptionnelles, on s'adapte. Tite Live, l'historien, raconte que Rome fut à une époque menacée par l'Étrurie, les Ombriens et les Gaulois à la fois. Le Sénat, dit-il, épouvanté de ces nouvelles, fit proclamer l'état d'urgence et ordonna des levées en masse. On enrôla même des affranchis. Une autre fois, la menace est si grande que, rapporte encore Tite Live, une levée d'une nouvelle espèce fut commandée. 8000 esclaves, parmi les plus jeunes et les plus vigoureux, furent achetés et armés. En entrant dans l'armée, le citoyen doit prêter serment, une cérémonie très importante. Dans la tradition, ce rite est très impressionnant de cruauté. Tite Live décrit un de ces serments, celui de dite de la Légion du Lin. 40 000 combattants furent réunis à Aquilonia. Là, au milieu du camp, on forma une enceinte que l'on couvrit de toile de lin. Tout l'appareil de cette cérémonie était fait pour pénétrer l'âme d'une religieuse terreur. On faisait approcher des autels chaque soldat, on le contraignait à prononcer des imprécations horribles contre lui-même et contre sa famille, s'il ne marchait au combat ou s'il s'enfuyait du champ de bataille. Quelques-uns, d'abord, se refusèrent à un pareil serment. On les égorgea et leurs corps, gisant au milieu des victimes sanglantes, furent pour les autres un avertissement de ne pas résister. Alors, cette scène de serment est probablement exagérée, mais ce qui est vrai, hein, c'est que la discipline dans l'armée romaine est très brutale. Un exemple de punition très grave, la bastonnade. « Voilà en quoi consiste le supplice », s'écrit Polybe. Le tribun prend un bâton avec lequel il ne fait guère que toucher le condamné, mais après lui, tous les hommes de sa légion se mettent à le frapper et à lui jeter des pierres. Dans la plupart des cas, l'homme est achevé dans le camp même. Et si par hasard il en échappe, il n'est pas sauvé pour autant. Aucun membre de sa famille ne se risquerait à lui ouvrir la porte. Cette pratique, constate Polybe, est bien faite pour impressionner les soldats.
C'est terrible la discipline exigée par les soldats, enfin des soldats romains, Catherine Salle.
Oui, c'est une discipline très dure, mais qui justement a contribué à l'excellence de cette armée. C'est qu'ils savaient que tout manquement à leur devoir entraînait une un châtiment sévère. Alors, il y a des châtiments corporels, vous y avez fait allusion.
Lapidation, quand même. Ouais.
Lapidation, peut-être moins, mais châtiment corporel, en tout cas, coup de bâton. Et Tacite évoque un centurion qui... Les centurions étaient armés, portaient un cep de vigne, qui était la marque de leur fonction. Et ce centurion avait l'habitude de battre ses soldats avec ce cep de vigne. Et comme il les cassait, ces cèpes de vigne, il passait son temps à en demander un autre. Et il avait été surnommé par ses soldats encore un autre, parce qu'il passait son temps à redemander un autre cep de vigne. Alors il y a des punitions qui sont plus démoralisantes, comme par exemple le soldat doit monter la garde pendant 2 jours devant la tente du général, en étant pieds nus et sans ceinture à sa tunique, ce qui était tout à fait considéré comme humiliant. Bon, il y a des châtiments, il y a la mort, il y avait la pratique qui n'est plus guère utilisée à notre ère, de la décimation qui consistait à faire aligner les soldats, à en compter 1 sur 10, et chaque 10e était exécuté sur le champ.
C'est incroyable. Et la façon dont on pouvait les tuer aussi, parce qu'ils refusaient de prêter serment. Pourquoi d'ailleurs ?
Ceux qui ont refusé de prêter serment, ce sont les chrétiens, en fait. C'est-à-dire, ça. Parce que c'était un serment à l'empereur, et eux ne refusaient ce sacramentum, puisque c'est un sacramentum. Et par conséquent, effectivement, les soldats d'origine, enfin de confession chrétienne, ont souvent été exécutés pour refus de serment.
Alors, même quand ils étaient disciplinés, Catherine Salle, ils menaient une vie qui était vraiment hallucinante. Quand on vous lit, par exemple, les marches. 40 kilomètres par jour.
40 kilomètres par jour, avec 40 kilos sur le dos, puisqu'ils portaient non seulement leur équipement, mais ils portaient les pieux qui servaient à confectionner le camp, ils portaient les armes, bien sûr, les outils qui servaient aux travaux divers de routes, pour faire des routes, pour faire un camp. Et donc, ils avaient ces marches fort longues. Ils étaient habitués à marcher dans toutes les conditions atmosphériques possibles, pluie, vent, neige, soleil, dans le désert, dans les forêts, et ils avaient effectivement une efficacité redoutable à cause de cette façon de s'accoutumer à tout ce qui leur était proposé.
Vous parlez de l'équipement, Catherine Salle, est-ce qu'il ressemblait à celui que l'on voit justement dans Astérix ou dans les péplums?
Oui, c'est à peu près ça, enfin, même si souvent c'est un petit peu d'opérette, mais enfin, on en voit même à Rome à l'heure actuelle, tout autour du Colisée, des faux légionnaires. L'armement du légionnaire était donc destiné évidemment à protéger essentiellement le corps par les armes défensives, et ils avaient une cuirasse en particulier qui était tout à fait exceptionnelle, qui résultait d'ailleurs de différentes origines. Il y avait des origines espagnoles, des origines gauloises, parce que ça a été aussi un des cas de l'armée romaine pendant l'Empire, c'est de savoir reprendre aux armées étrangères les éléments du costume qui montraient leur efficacité.
Alors tous n'étaient pas des combattants, vous insistez aussi beaucoup sur la logistique qui était importante, d'abord pour construire les camps, pour construire aussi les routes qui servaient à la communication, en fait, entre l'armée et Rome. D'ailleurs, les voies romaines, c'est un peu ça.
Ce sont des voies stratégiques, sont unies. Enfin,
plus que pour le commerce.
Ah oui, bien sûr, le commerce se faisait par bateau, hein, essentiellement. Non, les armées romaines sont effectivement à l'origine de ce réseau de routiers extraordinaires que connaissait l'Empire romain. Et les voies romaines étaient construites avec une technicité tout à fait remarquable et demandaient énormément d'efforts. Et c'était effectivement les soldats qui construisaient les voies romaines. Ils construisaient aussi les forts dans les endroits où il fallait installer un détachement de la Légion. C'était des constructeurs.
Mais alors les forts, c'était des camps donc qui étaient entourés de palissades de bois, qui étaient fixes ou qui étaient mobiles.
Les forts, à partir de l'Empire, ce sont de véritables villes forteresses, comme on peut en connaître dans d'autres civilisations, c'est-à-dire des villes entourées de remparts, bien sûr de pierres, qui pouvaient abriter une légion au moins. Mais quand on a la légion, les 5000 hommes de la légion, mais il y a aussi tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire tous ceux qui travaillent dans l'intendance, dans l'armure, pour les chevaux et pour toutes ces activités où il y a un personnel tout à fait considérable.
Les prêtres aussi, vous insistez beaucoup sur le rôle de la religion. Hein. Oui. Elle était soumise à toutes les fêtes religieuses, bien entendu.
Oui, il y avait des fêtes religieuses, bien sûr, qu'ils respectaient, mais ils avaient des fêtes qui leur étaient particulières. En particulier, il y avait une fête au moment de la prestation de serment des jeunes recrues. Il y avait une grande cérémonie dans le camp qui était une fête religieuse, puisque à Rome, tout est lié à la religion.
Et puis la religion, c'était aussi la consultation des entrailles des animaux qui étaient sacrifiés avant de partir en campagne. C'était le travail des prêtres chargés justement d'interpréter la volonté des dieux, les aruspices.
Cet animal offert en sacrifice est né quand la lune se trouvait dans la plus favorable des 16 zones. Son foie ne présente aucune tache suspecte et il n'y a pas de substance étrangère. Tous les présages sont favorables pour la campagne que vous allez entreprendre pour la plus grande gloire de Rome et de l'empereur qui régit la destinée de votre empire.
Aujourd'hui commence la tâche finale de la 10e Légion en Judée.
Alors c'était un dernier extrait du téléfilm Massada, le début de la campagne de la 10e Légion en Judée. Alors on ne faisait pas la guerre sans consulter les oracles, Catherine Salle, ni à n'importe quel moment de l'année. Vous dites que c'est seulement entre les mois de mars et octobre qu'on faisait la guerre. Pourquoi?
Il y a la saison de la guerre, comme la saison de la navigation, d'ailleurs elle coïncide, c'est-à-dire du mois de mars au mois d'octobre, tout simplement parce que les conditions atmosphériques n'étaient pas bonnes pendant l'hiver. Et la guerre à Rome était voué au dieu Mars, et bien le dieu Mars c'est celui qui apparaît au printemps, donc la guerre commençait avec le printemps.
Alors c'est surtout la guerre sur Terre hein, dont on parle toujours. La marine romaine, dites-vous, n'a pas joué un très grand rôle en fait dans l'histoire de Rome, et pourtant elle était importante. 250 navires.
Oui, il y avait la flotte impériale a été basée d'une part à Misène près de Naples et d'autre part à Ravenne sur l'Adriatique, mais les Romains n'étaient pas des marins, donc ils n'accordaient pas une très très grande importance à la marine. La marine a quand même servi dans un certain nombre de batailles, comme la bataille d'Actium, par exemple, entre Cléopâtre, Antoine et Octave Auguste.
Ça, c'était un peu une guerre civile, d'ailleurs.
C'était une guerre civile, bien sûr. Et les marins étaient à la fois, enfin, sur les bateaux, il y avait des marins qui étaient à la fois des combattants, bien entendu, puisqu'il y avait une sorte de forteresse au centre du bateau, sur lesquels à partir desquels les marins bombardaient en quelque sorte les adversaires de flèches, d'armes de jet. Et puis il y avait des moyens, enfin il y avait des machines de siège qui permettaient de, ce qu'on appelait les corbeaux, qui permettaient de lancer une passerelle sur le bateau ennemi et de débarquer sur le bateau ennemi.
Alors, pas de grandes batailles navales, mais en revanche, il y avait de très grandes batailles sur Terre. Il y a eu un désastre, c'est les légions de Varus qui ont été massacrées par les Germains.
C'était une bataille, mais d'un style un peu particulier, parce qu'elle se trouvait dans la forêt de Teutobourg, ces légions de Varus, ces trois légions, hein, c'est énorme, une grande partie de l'armée romaine. Et
avec 15 000 hommes.
Oui, 15 000 hommes, mais de légionnaires, mais il faut compter tous les auxiliaires et tout, c'est beaucoup plus en fait que 15 000 hommes. Et ils ont été pris dans des marécages, dans ces forêts qui étaient très obscures, qu'ils ne connaissaient pas, et les Germains leur ont sauté dessus. Mais les grandes batailles les grandes batailles en rang, en tout combat. Bien sûr, il y a eu la bataille de Cannes pendant les guerres puniques. Il y a eu
Alésia,
donc ça c'est une bataille de siège.
Là, en plus, là on voit la logistique.
Ah oui, ça a été extraordinaire.
Alésia était encerclée
par trois couronnes de pièges, en fait, parce que Jules César devait à la fois l'emporter sur les gens qui étaient dans la forteresse, mais empêcher que d'autres armées gauloises arrivent derrière lui pour venir en aide à la forteresse. Donc là, ça a été un système de pieux plantés dans le sol, de sortes de machines en métal qui empêchaient en fait aux chevaux, les Gaulois étaient quand même des cavaliers, d'avancer autour de...
Il y avait des catapultes aussi.
Il y avait des catapultes, alors ça s'appelle des onagres, des scorpions selon leur taille. Et ça a lancé effectivement des boulets. En fait, ce sont vraiment des boulets qui étaient lancés contre les murs ennemis. Et puis il y avait des tours qui permettaient d'approcher des murailles dans lesquelles ces tours étaient c'était des tours blindées en quelque sorte, et ça permettait de débarquer dans la ville ennemie.
Et de vaincre Vercingétorix. Alors évidemment, à la suite de tout ça, il y avait la récompense suprême pour le vainqueur, qui était évidemment le triomphe. Hein, il défilait dans Rome, l'armée revenue dans Rome. Vercingétorix, était présent, attaché par des chaînes. Et alors, c'était quelque chose qui était à la gloire des empereurs. Bon, César n'était pas encore tout à fait un empereur.
À la gloire des généraux. Tous les généraux vainqueurs avaient comme but, en fait, d'obtenir le triomphe. Hein, où on assimilait le général vainqueur à Zeus, en fait, à Jupiter, enfin, au dieu.
Mais même plus que le triomphe, parce que justement, là, on entre dans Rome avec les armes, ce qui est en principe interdit. Et très souvent, vous le dites, à partir du premier siècle de notre ère, ce sont les légions elles-mêmes qui vont désigner les empereurs, Catherine Salle.
Oui, c'est-à-dire c'est une partie tout à fait de l'armée qui joue un rôle particulier. Ce sont les gardes prétoriens. Les cohortes prétoriennes sont les seuls soldats qui vivent à Rome à l'époque impériale. Mais donc ça date de l'époque d'Auguste, début du premier siècle de notre ère. Et ces cohortes prétoriennes sont là pour défendre l'empereur. L'empereur peut les utiliser dans le cas d'émeutes, de manifestations quelconques. Mais à partir de Claude, ces cohortes prétoriennes vont avoir la prérogative d'acclamer l'empereur. C'est-à-dire qu'un empereur ne sera vraiment empereur que s'il est acclamé par les cohortes prétoriennes.
D'où le rôle énorme de l'armée. Cette armée, elle va disparaître, bien sûr, avec l'Empire romain d'Occident, en tout cas, c'est-à-dire au 5e siècle. Qu'est-ce qui reste de cette armée aujourd'hui, maintenant? Est-ce qu'on peut dire que l'armée romaine, d'abord, est-ce qu'elle a vraiment disparu? Et en quoi a-t-elle inspiré les armées qui ont suivi au Moyen-Âge ou même les armées modernes?
L'armée de Napoléon s'est beaucoup servi du modèle romain pour ses armées. Eh bien, ce qui va rester, ce sont tout d'abord des tactiques, parce qu'il y a eu des très grands tacticiens dans l'armée romaine. Il y a même eu des livres composés sur les tactiques militaires qui ont été utilisées au cours des siècles. Il y a des restes, je dirais, archéologiques, comme la colonne Trajane, où l'on voit effectivement toute l'armée de l'empereur Trajan dans sa campagne contre les Daces. On a des restes monumentaux comme le mur d'Adrien, dont il reste effectivement encore une partie en Grande-Bretagne.
Et même des soldats romains déguisés, vous m'avez dit, à Rome, vous étiez il y a trois semaines à Rome, et on les voyait déguisés devant le Colisée.
En prétorien d'opérette.
Voilà. Merci Catherine Salle. Je rappelle que vous êtes l'auteur donc de La vie des Romains au temps des Césars, un livre publié chez Larousse et dans lequel vous accordez un chapitre entier donc à l'armée romaine. Vous abordez aussi d'autres aspects, bien sûr, de la vie quotidienne des Romains, la famille, les mœurs, la culture ou la religion. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants: Masada de Boris Sagal avec Peter O'Toole dans le rôle d'un légat, et bien sûr Astérix et la surprise de César de Paul et Gaëtan Brizzi, d'après l'œuvre de Goscinny, ça va de soi. Vous pouvez retrouver plus de renseignements contactant les services des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33. 34 centimes d'euros la minute, ou en consultant le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Olivier Riotor et Éric Gérard, documentation Virginie Bloch-Lenné et Claire Tesser, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
Une émission de Patrice Gélinet.